Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
L'ouverture de l'école dans les années 80 et l'amélioration des qualifications auraient dû favoriser en France l'emploi des jeunes et réduire les inégalités sociales. Qu'en est-il exactement en 2007 ? C'est aujourd'hui le sujet de l'émission Éclairage avec Raymond Barre pour invité, l'un des 8 co-auteurs du livre « La France prépare mal l'avenir de sa jeunesse » publié ce mois-ci en janvier 2007 aux éditions du Seuil par l'Académie des sciences morales et politiques. Raymond Barre, bonjour.
Bonjour madame.
Avec quelques-uns de vos confrères de l'Académie, au début de l'année 2005, vous avez décidé de lancer un groupe de réflexion sur l'avenir de la jeunesse, vous intéressant par là même à l'état de la France. Le livre engage l'Académie des sciences morales et politiques. Il est co-signé par 2 anciens premiers ministres, Pierre Messmer et vous-même, Raymond Barre, par d'autres membres de l'Académie, Michel Albert, Gabriel de Breuil, Marcel Boiteux, ainsi que par 3 experts sans lien avec l'Académie, Christian de Boissieu, Jean-Michel Charpin et Jean-Philippe Cottis. Alors, 3 points, structure l'ouvrage, l'emploi, l'éducation et le déséquilibre entre les générations. Vous étiez parmi les 8 co-auteurs de cet ouvrage, celui qui pouvait nous parler de l'intérieur, de ce que l'ouvrage appelle le dualisme du système d'éducation en France, du fait de votre double expérience universitaire et politique, du fait que vous avez été appelé aux plus hautes fonctions de l'État comme Premier ministre, mais dès 1973, vous avez été chargé par Joseph Fontanet d'élaborer un projet de réforme destiné à mieux articuler l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Donc, les questions d'éducation vous sont familières, Monsieur Barre. Et même si vous êtes retiré de la vie politique depuis 2002, vous restez un témoin très attentif des affaires publiques. Raymond Barre, vous avez signé l'avant-propos du livre avec un autre ancien Premier ministre, Pierre Messmer. Et pour préciser aux auditeurs l'originalité de votre démarche et l'intérêt de cette écriture collective, avec plusieurs de vos confrères, avec également des experts, qu'est-ce qui vous a motivé au fond pour vous lancer dans un travail de réflexion durant 2 ans sur l'avenir de la France et par conséquent de sa jeunesse ? Un événement, l'actualité, l'échec de certaines politiques, la teneur du débat politique ?
Je crois que ce qui m'a inspiré, ce qui a également inspiré tous mes confrères dans ce groupe de travail, c'est l'observation de l'état de la France. Vous avez pu constater que le livre ne contient aucune démarche idéologique, aucune démarche partisane. Il s'agit d'étudier la situation de la France sous un certain angle. C'est celui de l'avenir. Et comment peut-on mieux discerner les problèmes de l'avenir qu'en regardant les problèmes de la jeunesse ? Et c'est cette jeunesse qui, aujourd'hui, a, en quelque sorte, provoqué notre attention. Il y a tellement d'observations tristes que l'on peut faire à ce sujet. Pour moi, qui suis un vieux professeur, voir des défilés de lycéens et de lycéennes comme ceux que j'ai vus à la télévision au cours de ces 2 dernières années est quelque chose qui m'étonne, et je ne suis pas seul. À l'étranger, je constate que c'est aussi un grand sujet d'étonnement. Donc, il nous faut rechercher quelles sont les causes de cette situation. Alors, les 3 points que nous avons retenus dans le livre sont les 3 points majeurs liés entre eux.
Oui.
Mais il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. Il aurait fallu peut-être replacer la situation de la jeunesse dans la situation de la société française. Ce qui manque à la jeunesse, à mon avis, c'est maintenant le sens de la discipline. On n'enseigne plus la discipline, on n'enseigne plus les règles à respecter. Il y a purement et simplement l'épanouissement de l'enfant ou de l'adolescent. Mais avec l'épanouissement, où va-t-on ? Il était donc souhaitable de concentrer l'attention sur les 3 points qui nous ont paru les plus importants. En premier lieu, c'est l'emploi. Car les files d'attente auxquelles les jeunes sont habitués ne peuvent pas ne pas retenir l'attention. En second lieu, l'éducation. Parce que les problèmes d'emploi sont, pour une grande part, liés aux problèmes d'éducation. Et enfin, comme cette jeunesse se trouve dans une situation précaire, dans beaucoup de cas, le problème qui se pose est celui des conditions dans lesquelles on va aider cette jeunesse. Malheureusement, on constate qu'il y a une façon d'aider par l'endettement, ce qui signifie qu'on va transférer sur l'avenir, sur les générations de demain, la charge du refus que les aînés à l'heure actuelle font pour subvenir aux besoins de la jeunesse et les aider à surmonter leurs problèmes. Vous voyez, tout ça se tient, et ce qui est important, je vous le disais en commençant, c'est l'observation qui nous a conduit à cela. Mais c'était quelque chose de concret.
Oui.
Ce n'était pas une réflexion philosophique, sophistiquée, c'était essayer de comprendre la réalité telle qu'elle est.
Alors, l'avenir d'un pays dépend de son offre de formation, en grande partie, de la qualité de son enseignement et de sa recherche. Vous avez choisi un titre qui, d'emblée, annonce un petit peu la couleur du dysfonctionnement, de la fracture du système d'éducation, puisque cette seconde partie de l'ouvrage, qui est vraiment la partie aussi... Enfin, il n'y en a pas une qui soit plus dominante que les autres, parce que, comme vous venez de l'expliquer, les trois se tiennent vraiment. Mais vous avez donné pour titre « Le dualisme du système d'éducation ». Pouvez-vous expliquer ce titre qui d'emblée met le point sur une fracture ?
Comme les choses se tiennent, le dualisme sur le marché de l'emploi est lié au dualisme sur le plan de l'éducation. Et je voudrais simplifier ma réponse à votre question. J'ai connu un temps où il existait des règles qui fixaient le niveau des connaissances que l'on devait acquérir et par conséquent du niveau qui permettait d'aller au-delà de l'école vers
des
l'emploi. Emplois différents. Pourquoi y avait-il cette attention portée au niveau ? Parce que l'opinion, très juste à mon avis, était que les jeunes devaient être formés de manière à ce qu'ils puissent assumer les responsabilités qui seraient ultérieurement les leurs. Et cette responsabilité n'est pas simplement une responsabilité individuelle, c'est aussi une responsabilité collective. L'école, le système éducatif, prépare les enfants, puis les jeunes, à participer à la vie collective. Cette vie, elle doit être considérée comme exigeant une certaine discipline, je retrouve le mot. Par ailleurs, la société dans laquelle nous sommes appelés à vivre est une société qui comporte des obligations. On enseigne les droits de l'être humain, les droits de la personne. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des devoirs et des obligations pour la personne. Alors, l'école, puis l'université, montraient ça très bien et formaient intellectuellement les jeunes. Et j'évoque le livre de Gobelot, « La barrière et le niveau ». Pour que le niveau soit atteint et respecté, il fallait que la barrière soit franchie. Autrement dit, qu'on ne soit pas bachelier avec une moyenne de 7. Dans ma jeunesse, on était bachelier avec 10. Et encore, on ne s'en vantait pas. Mais on allait chercher des niveaux de 12-13 avec des professeurs qui jugeaient très sévèrement ce niveau auquel se trouvait l'élève ou l'étudiant. Et ça, c'est très important, voyez-vous. Parce que si on n'a pas très tôt ce sens qu'il y a des barrières à franchir pour atteindre un certain niveau. Alors, on voit fleurir cette théorie qui a trop longtemps été pratiquée depuis quelques années. C'est l'épanouissement du jeune, l'épanouissement de l'élève, l'épanouissement de l'ado. Et pour qu'il s'épanouisse, il faut ne rien faire. Il ne faut pas exercer une autorité. Il faut laisser chacun se comporter comme il veut. Que voulez-vous? Vous me direz que je suis ringard, mais dans les écoles naguère, comme dans les universités, toutes les écoles, et je dirais dans l'enseignement supérieur, école supérieure ou université, quand le professeur entrait dans la classe ou dans l'amphithéâtre, les élèves ou les étudiants se levaient. C'était un signe de déférence. Et c'était en même temps montrer clairement que ceux qui venaient là attendaient du professeur qu'il leur donne un enseignement. Il y a eu 68, j'ai connu le temps où les professeurs disaient aux élèves « Vous pouvez me tutoyer ». Eh bien ça, c'est dramatique. Et la situation dans laquelle le système éducatif français se trouve à l'heure actuelle dépend en beaucoup de cette absence de la notion de barrière et de la notion de niveau. Ajoutons à cela, si vous permettez, que le dualisme que nous observons à l'heure actuelle est la conséquence du fait que nous avons, dans l'enseignement primaire, dans l'enseignement secondaire, dans les grandes écoles et les universités, des secteurs où la discipline et les principes de formation sont respectés et les élèves ou les étudiants l'acceptent. Et puis, il y a tout un secteur qui est, je peux utiliser cette expression, abandonné à lui-même et où il n'y a plus aucun espoir. J'ai enseigné à Paris en première année de licence de droit et de sciences économiques. J'avais 6000 étudiants. Je savais qu'à la fin de l'année, premier tour des examens, il m'en resterait 2000 et qu'après le second tour, il me resterait 1000 et qu'en deuxième année, je me retrouverais avec 500 étudiants. Quel gâchis!
Alors on va peut-être revenir, oui, parce que ça c'est quelque chose qui demeure, là vous évoquez votre expérience et l'université française est encore...
C'est pour cela que le livre insiste sur le dualisme. Et voyez-vous, moi je suis aussi un républicain, j'ai été habitué à l'école primaire, à l'école secondaire, selon les bonnes règles de la République. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Que toutes les écoles qui avaient été faites par Jules Ferry, toutes les universités qui ont été créées dans notre pays, sont concurrencées par des organismes, par des institutions qui, elles, pratiquent la sélection, c'est-à-dire mettent des barrières et n'acceptent que des élèves ou des étudiants qui ont un niveau reconnu.
Alors, la démocratisation scolaire, c'est un phénomène depuis les années 60, les années 80 qui a connu une nouvelle accélération. Est-elle un échec selon vous?
Tout à fait. Il ne faut pas se faire d'illusions. La démocratisation est nécessaire, si on la comprend, comme la possibilité donnée à des élèves qui ont un certain nombre de qualités intellectuelles, mais qui, pour des raisons sociales, les raisons familiales ne peuvent pas accéder à l'enseignement, de leur donner les moyens de le faire et de les encourager tout au long de leur carrière scolaire et universitaire. C'est pour ça qu'il y avait les bourses. On donnait des bourses aux meilleurs et on supprimait la bourse quand l'élève ou l'étudiant ne se montrait pas capable de respecter la discipline qui lui était demandée.
Aujourd'hui, les bourses sont attribuées sur le mérite sont très, très rares, je crois. Les bourses sont attribuées en fonction des familles, de leurs revenus.
Oui.
Et pas forcément sur le mérite.
On a toujours tendance à généraliser. Et vous avez vu que le Premier ministre parlait de donner une indemnité aux jeunes pour qu'ils puissent s'installer dans sa vie d'étudiant. C'est l'assistance généralisée du berceau à la tombe.
Alors, tous les degrés de l'enseignement, primaire, secondaire et supérieur, ont connu une ouverture similaire d'accueil, comme ça, d'effectifs d'élèves en augmentation. Cependant, certains secteurs ont échappé, rares, mais ont échappé à cette ouverture, à cette massification de l'enseignement. À la fois le baccalauréat général, parce que ce sont les filières du bac professionnel qui ont augmenté ou du bac technologique, mais le baccalauréat général n'a pas vu ses effectifs augmenter davantage par rapport aux années 80. Ce sont les autres bacs qui ont augmenté, qui font que le nombre des bacheliers a augmenté. Il y a un autre secteur, domaine, entre guillemets, qui a un petit peu échappé à cette massification.
Je ne suis pas du tout opposé à ce que le nombre de bacheliers augmente
non, bien
à condition qu'il y ait ces filières professionnelles dont vous parlez. Ce n'est pas le bac général.
Et puis, il y a un autre domaine qui n'a pas accueilli non plus ou qui n'a pas suivi cette croissance expansive des effectifs, ce sont les grandes écoles. Donc, on est passé, Raymond Barre, de l'ouverture de l'enseignement au plus grand nombre à un système qui a quand même généré, c'est ce que les études montrent et le constat que vous portez également, à un système où on a des exclus aux deux extrémités. C'est-à-dire qu'on a des laissés pour compte des jeunes qui quittent le système scolaire sans diplôme et en grand nombre, puisqu'il s'agit d'environ 155 000 jeunes par an, ce qui correspond à toute une génération de baby-boomers. Et puis, de l'autre côté, on a aussi un gâchis semblable avec les étudiants qui quittent les premières années de l'université sans diplôme. On est donc à l'extrémité du système, entre la fin de la troisième et puis le premier stade de l'université. Comment ces jeunes vont-ils et peuvent-ils s'intégrer dans l'emploi réseau?
C'est une très difficile affaire. Et il faudra beaucoup de temps pour remédier à cela. Il faut d'abord que dès l'école primaire et dès l'école secondaire, les lycées et les collèges, le niveau de formation soit réalisé à chacune des étapes.
Vous êtes pour une évaluation systématique à
C'est
chaque
l'évaluation
étape qui existe un petit peu déjà.
C'est une orientation. Des enfants ou des adolescents qui se présentent en fonction de leur qualité vers telle ou telle formation. Et c'est en second lieu, lorsque l'orientation est faite, l'existence de règles, d'examens qui permettent de vérifier le niveau.
Mais aujourd'hui, les examens existent, les diplômes existent, mais comment les diplômes se sont-ils dévalorisés?
Je m'étais occupé du temps de M. Fontané, de voir le problème du bachot. Quand des jeunes sortent, naguère, je parle de ça, 73, quand des jeunes sortent du bachot, ils vont là où ils désirent aller. Alors, certains font la médecine, d'autres font du droit, en fonction de leur goût. Alors, il y a ceux qui sont capables d'assumer les conditions imposées par ces études. Et puis, il y a les autres qui se sentent rapidement incapables et qui abandonnent l'université, par exemple. Ou bien, il y a le système que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'échec à l'examen qui fait l'orientation. Et Dieu sait
une orientation par défaut, par l'échec.
Une absence d'orientation. Oui. Une absence, si. C'est l'échec. Et c'est pour ça que vous avez des problèmes dramatiques. Parce que des jeunes, à ce moment-là, se sentent inférieurs. Il y a un complexe d'infériorité. Ils ne le montrent pas. Ou alors ils manifestent pour qu'on change les règles et qu'on leur accorde tous les avantages qui sont liés à des examens qui sont totalement respectés. Alors, remarquez bien ce qu'il y a en France à l'heure actuelle. Quand vous prenez l'enseignement primaire et secondaire, vous avez un véritable afflux vers l'enseignement privé. Le nombre de familles qui veulent diriger leurs enfants vers l'enseignement privé est considérable. Et ces familles acceptent une liste d'attente très, très longue. L'essentiel, c'est que l'année suivante, l'enfant qui n'a pas pu entrer cette fois dans l'enseignement privé y entre. En ce qui concerne l'enseignement supérieur, il y a ceux qui sont capables de passer les concours dans les grandes écoles. Ils y vont tout de suite. Et puis, il y a ceux qui ne peuvent pas. Alors, ils reviennent vers l'université. Mais les conditions de leur formation ne leur permettent pas de s'adapter aux diverses filières qui sont celles de l'université.
Et l'université peut-elle aussi s'adapter à ces nouveaux publics?
L'université fait tout pour s'adapter. Depuis quelque temps, l'université crée des filières professionnelles.
Oui.
D'ailleurs, les étudiants qui vont dans ces filières sont sûrs de trouver un emploi. Ou presque
oui.
sûrs de trouver un emploi.
Ce que les études du CEPREMAP montrent,
oui.
c'est que justement les étudiants qui passent par les filières des IUT oui. et non pas par le DUNG vont trouver d'abord plus facilement un emploi, y compris un salaire plus élevé au départ, en tout cas, par rapport aux
Parce
étudiants
que...
de DUG, qui s'arrêteraient au niveau du DUG.
Mais oui, une... mais attendez, il y a une sélection
oui.
qui ne dit pas son nom.
Oui.
Disons une orientation sélective, selon le mot de l'Académie des sciences, lorsqu'il s'agit d'entrer dans les filières professionnelles en université. Les professeurs regardent les dossiers, disent aux postulants, vous pouvez ou vous ne pouvez pas. Mais pour le DUG, c'est la masse. Et quand la masse est, passez-moi l'expression, amorphe, il n'y a pas moyen de réaliser des résultats. Alors vous en avez de très bons. Moi, j'ai connu des étudiants qui ont fait le DUG après le DUG les années suivantes et qui ont très bien réussi. Mais c'était des gens qui avaient été correctement formés à l'école primaire, à l'école secondaire. Et c'était des gens qui travaillaient et qui savaient que pour réussir leurs examens, ils devaient travailler. Tandis qu'aujourd'hui, les examens sont accordés, comment dirais-je, avec bienveillance. C'est un euphémisme.
Alors, vous parliez tout à l'heure des familles qui s'orientaient vers le privé. Le système a évolué quand même en France, le système d'éducation, du fait de ces stratégies familiales ou bien aussi de l'influence d'initiatives individuelles pour créer des sortes de petites grandes écoles, d'écoles d'ingénieurs ou de commerce qui sont moins connues que les grandes écoles, mais qui se sont particulièrement développées et qui rencontrent de véritables succès.
Oui.
Alors, faut-il revenir à une politique volontariste de l'État sur un grand plan de la formation, d'éducation qui englobe secondaire et université, ou bien faut-il laisser se développer ces initiatives ou accorder plus d'autonomie? Est-ce qu'il faut au contraire mener les deux de front? Quelle piste proposeriez-vous, monsieur Raymond Barre?
Madame, je ne suis pas contre les initiatives, parce que, comme vous le savez, j'ai le grand malheur d'être un libéral, et que j'espère, je pense que ce sont les initiatives privées qui réussissent. On en a la preuve. Ce qui serait grave, serait que nous concevions à nouveau un système éducatif qui englobe tout cela, et qui finirait par faire disparaître les différences et, du même coup, ruiner les espoirs que certains pouvaient avoir dans tel ou tel développement de l'éducation.
Et la gravité de la situation, les tensions possibles de tous ces jeunes sans formation, sans déboucher sur un emploi rapidement, la gravité de la situation, selon vous, peut se passer d'une orientation politique forte?
Il faut repartir du lycée, remettre des disciplines strictes au lycée et faire en sorte que ceux qui ont leur baccalauréat puissent accéder à l'enseignement supérieur sans infériorité de base. Bien entendu, il faut à ce moment-là une orientation et il appartient aux universités, il appartiendrait aux universités d'examiner les candidatures des étudiants et de retenir celles qui paraissent à l'université convenables, de refuser celles qui n'ont aucune chance. J'ai enseigné à la faculté de droit et des sciences économiques de Paris. Je vois quel est le système universitaire sans orientation. C'est après, c'est en troisième, quatrième année et au-delà que des spécialisations se font. Et j'ai vu que c'était une stratégie de l'échec. J'ai enseigné à l'Institut d'études politiques de Paris, qui a un statut d'autonomie,
voilà,
où les dirigeants de l'Institut veillent à ce que les recrutements d'élèves répondent à un certain nombre de conditions, permettent ces conditions que, par ailleurs, ces étudiants ne soient point gênés comme naguère par des considérations de fortune ou par des traditions familiales. On les accueille et ils se forment dans l'ensemble. Et vous avez vu l'initiative récente qui a permis de prendre en accord avec des proviseurs de lycées les meilleurs dans les lycées des zones sensibles, de les faire entrer en année préparatoire où ces élèves réussissent très bien.
Effectivement.
Mais il faut l'autonomie des établissements d'enseignement, depuis l'école primaire jusqu'au sommet. Il faut, d'autre part, l'orientation sélective pour que les jeunes puissent être convenablement menés dans telle ou telle direction. Il faut enfin, à mon avis, une diversité des institutions. Il ne faut pas que toutes les institutions se ressemblent, que le statut soit uniforme. Il faut que ceux qui ont une idée originale et qui veulent créer un certain type d'enseignement le fassent. L'État ne les aide pas. Ils le font à leurs frais, ils le font à leurs risques et périls. Mais il y a quand même des innovations qui peuvent être apportées au système. Autrement dit, discipline, sélection, orientation sélective, diversification professionnelle, c'est, je crois, dans cette voie-là qu'il faut s'orienter.
Dernier volet de l'entretien, Monsieur Raymond Barre, notre système éducatif est-il adapté aux besoins de la mondialisation ?
Notre système éducatif ? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que
peut-il s'adapter dans les conditions actuelles ?
Dans les conditions actuelles, il n'est pas adapté.
Il n'est pas adapté.
Bien.
Et
les meilleurs, écoutez, ça, je l'ai vécu, les meilleurs de l'université, des écoles, viennent vous dire, nous avons la possibilité d'aller étudier à l'étranger. Qu'est-ce que vous nous conseillez ? Que d'étudiants ai-je eu en doctorat à Sciences Po qui me disaient au moment de faire leur thèse, nous avons la bourse à Stanford ou à Berkeley. Qu'est-ce que vous nous conseillez ? Je leur disais, mais ne perdez pas une minute. Allez-y.
Alors,
allez-y pour voir autre chose.
Ce qu'on observe, c'est que autrefois, ce passage, en quelque sorte obligé pour les meilleurs d'entre eux, passait par un séjour à l'étranger, dans des universités étrangères, de cran, pas forcément, mais ils revenaient en France.
Oui.
Aujourd'hui, le grand risque, c'est une installation définitive dans ces pays d'accueil.
Alors, vous relisez le premier chapitre du petit livre qui est consacré à l'emploi. Et vous constatez qu'il y a, dans le domaine de l'emploi, les insiders,
oui,
ceux qui sont protégés dans leurs emplois, 35, 55 ans, et les outsiders, qui se mettent sur liste d'attente. Voilà, c'est la conséquence. Ceux qui rentrent de l'étranger n'ont pas de problème, parce qu'il y a les recrutements qui se font et ils sont considérés comme tout à fait capables.
Et parfois, ils choisissent maintenant de rester, de nous quitter
oui,
définitivement.
Oui, mais alors,
parce que la carrière est peut-être plus attractive.
Vous posez un problème général de la société française,
oui,
qui n'offre pas cette diversité qui est aujourd'hui indispensable face à ce qu'on appelle la mondialisation, et qui peut se résumer très simplement. La mondialisation, c'est la compétition généralisée à la planète. Et pas simplement entre les entreprises, mais aussi entre les États et entre les individus. Et en second lieu, ce qu'il faut dans une situation de mondialisation, c'est l'adaptabilité, la capacité d'adaptation à un monde qui change, où l'innovation joue un rôle essentiel. Si les individus ne sont pas capables de s'adapter, ils vont être rapidement laissés en liste d'attente, ou bien ils seront les exclus. Et c'est là qu'on se trouve devant un grand problème pour l'emploi comme l'éducation. Nous avons en France des aides qui sont accordées, qui sont des aides à des emplois ou à des activités bien déterminées. Mais il n'y a pas des aides à la personne qui tiennent compte des vues de la personne, de ses aspirations, de ses capacités.
L'aide
nous l'avons
se fait
signalé dans voilà, le livre.
Davantage.
C'est un grand, voyez-vous,
grand principe de l'ouvrage.
Quand j'entendais le Premier ministre proposer qu'une allocation soit donnée à tous les étudiants, je me disais c'est contraire. Ah, l'essentiel, c'est que l'aide ne soit pas donnée à la qualité d'étudiant, à la fonction d'étudiant. L'aide soit donnée à la personne, à ses qualités. S'il veut être étudiant dans telle discipline, c'est normal. S'il veut aller ailleurs, qu'il y aille, mais on l'aide. Et c'est tout le problème de la formation professionnelle qu'il faut revoir en ce sens. Mais oui, madame, c'est un problème pour longtemps. Il nous faudra une bonne génération pour faire évoluer le système et pour arriver à des résultats aussi satisfaisants que possible. D'ici là, il faut chercher à s'adapter par tous les moyens.
C'est l'adaptation, l'adaptabilité dont vous nous avez parlé.
La façon dont l'éducation doit être conçue, c'est développer l'adaptabilité du jeune.
Raymond Barre, merci d'avoir donné aux auditeurs de Canal Académie votre éclairage sur notre système d'éducation actuel, sur ces dysfonctionnements quand même que vous avez pointés dans l'ouvrage « La France prépare mal l'avenir de sa jeunesse ». Vous vous êtes un petit peu exprimé sur les malentendus des Français par rapport à ce système d'éducation. J'ai oublié de vous poser la question, mais il y a un divorce un petit peu entre les Français et leur école.
Oui,
quand même.
Je vous parlerai très franchement. Les Français estiment que l'école ou le collège sont des instruments de promotion sociale.
Oui, l'école, l'ascenseur social, on ne l'a pas évoqué,
exactement,
mais c'est quand même très important.
Sociale. Il faut donc que les individus, les jeunes, enfin leurs enfants, ne soient point privés des chances qui peuvent leur être données. Mais ils estiment que tout enfant a ses chances et qu'il ne faut pas s'efforcer de les qualifier pour saisir ses chances. Vous avez là le problème des parents d'élèves. Je vous dirais franchement qu'ils jouent un rôle néfaste, notamment dans les rapports avec les enseignants. Je crois que les enseignants doivent être très attentifs aux familles, mais qu'il y a un minimum de correction à attendre de la part de beaucoup de familles.
Vous avez beaucoup parlé tout à l'heure de la discipline à l'école,
oui,
mais c'est quand même un problème qui concerne aussi les familles.
C'est la
raison. Peut-être d'abord,
oui,
et là il y a un travail de coopération. On accuse toujours l'école quand même,
oui,
de ces problèmes de discipline, mais c'est un problème de société.
Mais exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Tous ces problèmes ne peuvent pas se dissocier des problèmes de société.
C'est pour ça que
vous
parliez des 30 ans.
Je vous disais que ce livre aurait pu être fait sur une base élargie. Non, mais il faut bien voir que nous sommes une société déboussolée. Nous sommes une société qui était hiérarchique et bureaucratique. La hiérarchie est très difficile à supporter par les individus et elle est sclérosante. La bureaucratie est en train de s'effondrer sous l'effet de cette compétition dont je parlais. Donc, on se trouve en face d'une situation où il faut changer les mentalités. Ça ne se change pas du jour au lendemain.
Il faut apprendre à s'adapter aussi.
Il faut expliquer aux Français que le monde dans lequel nous sommes est un monde de compétition, que ça ne vaut pas simplement pour les entreprises, ou si les entreprises se délocalisent, c'est parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Ça s'applique aussi aux États, ça s'applique au système éducatif, ça s'applique aux individus. Et à partir de là, il faut leur expliquer qu'il y a des types de formations qui doivent être modifiées sans que ce soit considéré comme un crime de lèse-majesté à l'égard de l'État républicain.
Alors Raymond Barre, renvoyant les auditeurs à la lecture de l'ouvrage La France prépare mal l'avenir de sa jeunesse, et le regard des académiciens nous invite à exercer justement, à exercer un esprit critique sur l'état actuel de
Tout
la
à fait.
France.
Madame, je dis à ces candidats à l'élection présidentielle qu'il m'arrive de temps à autre de rencontrer, qu'ils doivent d'abord lire ce petit livre. Je ne vous dis pas cela parce que je suis moi-même membre de l'Académie des sciences morales et politiques. C'est parce que, ayant eu les responsabilités que j'ai eues, je sais que ce livre est très bien fait et qu'il peut contenir des enseignements. Et qu'en particulier, comme il est dit dans la conclusion, je crois, il faut être conscient de l'urgence des mesures que nous avons à prendre. Nous n'en avons pas parlé. Tous nos partenaires changent leur système. Tous. Nous ne faisons rien.
Alors, sur cet appel à l'intelligence et à la conscience de chacun, pour que nos jeunes voient s'ouvrir devant eux un avenir meilleur, ça c'est l'introduction de l'ouvrage. Je donne rendez-vous à nos auditeurs pour une prochaine émission avec Christian de Boissieu à propos de la publication de cet ouvrage. Je vous remercie,
Profitez-en,
Monsieur Raymond Barre, de
invitez
votre
le plus possible de
présence.
gens à venir parler de ce livre. Je fais de la promotion intellectuelle.
Merci Raymond Barre.
Je vous en prie.